Simon Pollack, 93 ans, rescapé de la Shoah, a témoigné devant les jeunes de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, section Strasbourg, à l'initiative de sa présidente, Natacha Hubele.
Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour écouter Simon, qui a survécu et qui est revenu d'Auschwitz. Alors en 2018, Simon a écrit un livre qui s'appelle « Agis comme si j'étais toujours à tes côtés ». Son témoignage est là aujourd'hui pour nous rappeler de ne jamais oublier la Shoah et pour que cela ne se reproduise plus jamais. Alors tout comme nous l'évoquions à la Convention nationale de l'UEJF Lille la semaine dernière, nous allons devenir tous et toutes les passeurs de mémoire, les témoins des témoins, et je vous demande d'en parler autour de vous et de continuer de perpétuer la mémoire.
Nous vous proposons de retrouver son récit en deux épisodes. Le premier, son passage en zone libre, jusqu'au départ pour le camp d'Auschwitz, alors qu'elle n'a que 15 ans.
Je m'appelle Simone Pollack, je suis née à Schirmeck en 1929 et j'ai habité avant la guerre à Saverne. Alors voilà, je vous dirais pour commencer, la Deuxième Guerre mondiale a débuté pour moi le 15 juillet 1940. Pourquoi ? Ce jour-là, je n'étais même pas à la maison, j'étais en train de chercher ma poupée. Et c'est là qu'elle me dit, pendant ton absence, un wagmestre est venu pour dire que dans l'heure, il fallait être dans la cour de la mairie, comme tous les juifs de Saverne avaient été invités. Elle prend, nous étions au mois d'août, hein, je vous ai dit, au mois de juillet, le 15 juillet, elle a vite pris quelques affaires. On avait le droit d'emmener une couverture, des sandwichs pour 3 jours et une valise. Elle s'est dépêchée de faire la valise, elle s'est dépêchée de nous faire des sandwichs et nous sommes arrivés dans la cour de la mairie de Saverne, où il y avait bien sûr déjà tous les coreligionnaires qui étaient réunis. Donc nous étions dans la cour de la mairie de Saverne. Nous étions là, il fallait décliner notre identité. Nous sommes montrés dans des bus à Saverne. Tout le long du trottoir, il y avait des Savernois qui regardaient. C'était intéressant de regarder comment les Juifs de Saverne allaient quitter les lieux. Moi, je sais, je me rappelle de cette image, comme si c'était hier, et je sais que ça m'avait beaucoup frappé. Nous sommes montés dans les bus, et les adultes avaient un visage fermé. On se demandait où on allait. On commençait à se détendre quand elles se sont rendues compte que nous allions dans le sud. On n'allait pas vers l'est pour aller en Allemagne. À l'époque, on avait déjà très peur d'être obligé d'aller en Allemagne. Notre première nuit, nous l'avons passée à Schirmeck. Schirmeck, c'était un camp qui, par la suite, a été réservé par les nazis aux insoumis. Mais nous les avons étrennés. Ça sentait bon, le bois. Cette première nuit dans ce lieu, je sais, même toute jeune, je n'ai pas dormi parce qu'on ne savait pas où on était. On ne savait pas ce qu'il allait nous attendre. Le lendemain, les mêmes bus nous ont amenés à Dole, où nous avons passé une deuxième nuit. Au centre de la ville de Dole, il y a un grand hall qui était réservé au manège. Il y avait des chevaux, sans doute, un marché, etc. C'est là que nous avons passé notre deuxième nuit. Il y avait par terre, il y avait du foin par terre, et nous avons passé notre deuxième nuit. Le troisième jour, donc, on nous a demandé qui voulait marcher et qui voulait monter dans le bus. Il y avait 11 kilomètres à faire entre Dole et la ligne de démarcation. Bien sûr, mon frère et moi, nous voulions rester auprès de notre mère. Les bagages sont montés dans le bus et nous avons marché. Il faisait une chaleur. Les villageois voulaient nous offrir de l'eau. Et les Allemands qui déjà nous accompagnaient, militaires, ils étaient contre cela. Et ils empêchaient les villageois de nous donner à boire. Bref, nous sommes arrivés à la ligne de démarcation. Qu'est-ce que c'était à l'époque ? Tout simplement une barrière. Et cette barrière, elle restait ouverte en permanence. Et en regardant au loin ce qui se passait, c'était un long serpent humain qui était là, qui avait été expulsé, bien sûr, des coreligionnaires. En ce mois de juillet 1940, les Allemands ont se sont débarrassés, on ne peut pas dire autrement, de tous les juifs. Ils voulaient que ce soit Judenrein, ce qui voulait dire nettoyer de tous les juifs. Nous avancions très lentement. Nous avancions très lentement. Pourquoi ? Parce que le serpent humain était là. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Il y avait des villageois qui venaient nous chercher, soit avec des voitures à bras, soit avec des voitures attelées à des chevaux, à des bœufs. Bon, on avançait lentement. La nuit était déjà avancée quand nous étions encore loin du but et des personnes sont venues pour dire « on emmène les enfants, les bagages, les adultes, il faut qu'ils marchent ». Et c'est ainsi que nous avons été récupérés, mon frère et moi, sur une voiture attelée, et nous avons couché dans un hangar, mon frère tombé de fatigue, moi je me suis assise et j'attendais maman. J'avais une seule peur, c'est que, ben voilà, qu'on ne la revoie pas, notre maman. Et ben, il était déjà, c'était le matin, les personnes, les adultes sont arrivés et j'avoue que j'étais très contente. Nous étions donc en zone libre, c'est-à-dire que nous sommes restés en zone libre jusqu'en 1942. De là, nous avons été, pour ainsi dire, débarqués à Londsonier, dans le Jura, et il avait toutes les écoles ont été réquisitionnées. Et c'est ainsi que nous avons abouti à l'école normale de garçons. C'est-à-dire que les salles de classe avaient été vidées. Et il y avait de petits lits qui étaient là. Nous étions à 17 dans une chambre. On ne savait pas ce qui allait advenir de nous. Et au bout de 3 jours, il y avait toujours encore des arrivées. Et au bout de 3-4 jours, on nous a dit, il y a à Lyon un très grand centre d'accueil où vous pourrez retrouver votre famille pour ceux qui veulent retrouver leur famille. C'était notre cas. Nous sommes partis en train, et au bout de quelque temps, et à tout bout de champ, le train s'arrêtait. On ne savait pas ce qui se passait. Vous savez, en période de guerre, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et au bout d'un certain temps, on ouvre notre porte également, et qu'est-ce qu'on voit devant nous ? Des gendarmes. Et, si vous voulez bien descendre, mais on n'est pas arrivé à Lyon, eh bien non, c'est ici que vous resterez dorénavant. Il y avait des voitures attelées par des bœufs, et on nous a dit de mettre nos bagages là-dessus et de marcher. C'est-à-dire qu'on ne restait même pas dans cette commune-là, qui était Couzance, mais qu'on serait acheminé, qu'on devrait marcher pendant 2 kilomètres à Cuisia, un village. Nous étions seuls, une autre famille avec 2 enfants, une femme seule. On nous a ouvert les portes de l'école. Nous étions donc dans une école. Les lavabos étaient faits pour des enfants, au maximum 13-14 ans. Les WC, c'était pareil. Au niveau de l'hygiène, il n'y en avait pas. Au niveau des repas, maman allait chercher des œufs chez le restaurateur qui avait eu ordre de nous faire des œufs, cherchait du gruyère. On ne consommait pas au restaurant. C'est lui qui nous préparait quelques repas très frugaux pour que, Au bout de 3-4 jours, les parents ont décidé qu'on ne resterait pas ici. Ce n'est pas possible. Ce ne sont pas des conditions de vie. Nous sommes donc retournés à Londsonier. Nous étions, pris en charge par la préfecture et nous sommes allés directement, c'est-à-dire la maman des 2 enfants et notre maman et mon frère et moi. Il faut dire que mes parents étaient divorcés. Et nous sommes allés à la préfecture. Nous avons été reçus par le responsable qui m'a dit à moi personnellement « Tu sais si bien défendre votre cause que vous pourrez revenir au centre d'accueil où vous étiez, à l'école normale de garçons. » Il faut dire que maman était née en 1896. Donc, elle a déjà subi la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, elle avait 22 ans. Donc, sa scolarité s'est faite entièrement en allemand. Maman ne parlait pas le français. L'interprète, c'était moi. Même ultérieurement, là, j'avais défendu le retour à Lons. Et ultérieurement, c'était moi l'interprète de notre famille. Nous sommes effectivement revenus à l'école normale où on nous a dit de suite, vous n'allez pas rester ici. À la rentrée, vous aurez à nouveau à partir. C'est ainsi que nous sommes partis de nouveau. On était à 3 km de Lons, dans des conditions épouvantables. Je vous parle de ça parce que l'expulsion des Juifs d'Alsace et d'Alsace, Bas-Rhin-Haut-Rhin, et de la Moselle, c'est quelque chose que nous avons vécu dès 1940. Mais heureusement, un jour, notre famille est venue, la famille qui se composait, il y avait des prisonniers de guerre, j'avais deux oncles qui étaient prisonniers de guerre, mais néanmoins, il y avait une solidarité entre nous, et la famille qui a très bien compris que c'était trop, que c'était pas possible de continuer comme ça. J'ai une tante qui a été très, très, comment dire, son mari était prisonnier de guerre. Elle était dans le village d'à côté avec ses parents et ses deux enfants. Et elle nous a promis, je vous trouverai quelqu'un. Et c'est ainsi qu'elle nous a trouvé une, on ne peut pas dire autrement, c'est, maintenant on dirait une pièce, c'est-à-dire une pièce avec alcôve et un coin cuisine. Mais c'était de nouveau la première fois que notre maman pouvait nous faire à manger et que nous étions ravis. Nous étions scolarisés, nous avons été, je ne peux pas dire que nous avons été mal reçus, c'est pas vrai, on n'était pas mal reçus. C'était un village qui était encore un village assez, les gens étaient primaires. Ils nous ont demandé, quand nous sommes venus, ils ont appris qu'on était des Juifs. Ils nous ont demandé si nous savions jouer du violon. Ils nous ont confondus avec les tziganes. Ils pensaient, moi, pour m'insérer dans une école, on m'a rétrogradé de 2 années. Je ne voulais plus aller à l'école parce que j'ai dit, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas. Nous avons vécu là. On peut dire jusqu'en 1942, les parents, les adultes étaient soucieux. Mais nous avions, nous, la chance d'être jeunes. On s'était intégrés, on était scolarisés. Nous avions très peu de moyens, mais on se débrouillait avec les moyens du bord. À la fin de 1942, c'est-à-dire en novembre 1942, la flotte française s'est sabordée. Les militaires sont partis et c'est à ce moment-là que les Allemands ont occupé toute la France. Je dois dire, à part notre renvoi d'Alsace, nous n'avons pas porté l'étoile, nous n'avons jamais porté l'étoile dans le Jura. Par contre, notre carte d'identité, il fallait faire apposer en gros caractères sur notre carte d'identité et pour les enfants très jeunes, la mention « juif ». Nous étions un petit peu, à partir du moment où nous étions occupés, nous avions, les parents, les adultes avaient peur. J'avoue que les enfants, nous étions insouciants, ce qui est normal, tout à fait normal. Mais les conditions devenaient de plus en plus difficiles. Et à partir de 1943, nous avions très peur. L'adulte avait très peur. Et surtout, pourquoi ? Parce que la résistance s'était organisée. Et à partir de 1944... j'étais scolarisé à Lons, le Saunier, et on était à la merci d'une rafle. Moi, j'allais en ville, en classe, et maman avait très peur. Ce qui fait qu'à partir du mois de février 1944, elle m'a dit « Écoute, moi, je ne veux pas que tu ailles en ville et en classe », parce qu'elle avait très peur. On entendait des arrestations, outre fait arrêter, vous savez, ils ne faisaient pas de détails. Les Allemands, on exécutait sur place. La résistance était féroce et la réponse l'était encore davantage. Je veux retourner en classe. Et je suis retourné à partir du mois de mars. En ce mois d'avril 1944, je revenais de la ville et maman me dit « Écoute, il y a quelque chose d'affreux qui vient d'arriver, qu'il y avait dans le hameau d'à côté, là où nous allions nous chercher 3 fois par semaine du lait. Nous cherchions là-bas le lait, nous cherchions là-bas les œufs. Vous savez que pendant la guerre, les autochtones dans le village où nous étions, à part chercher du fromage de chèvre, on n'avait rien d'autre à chercher. Pourquoi ? Ils troquaient eux-mêmes ce qu'ils avaient contre d'autres choses, voilà. Dans le village d'à côté, donc, le hameau d'à côté, il y avait eu une dénonciation. C'est-à-dire que le 25 avril au soir, il devait y avoir une réunion de résistants. Et au dernier moment, elle a été annulée parce que la résistance a appris qu'il y avait eu une fuite. Mais le lendemain, les Allemands sont arrivés. Néanmoins, les Allemands sont arrivés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé sur place le propriétaire des lieux, qui était le responsable FFI de la région, et le commandant Foucault. Le responsable a pu se sauver, mais le commandant Foucault, qui était le commandant de toute la région de la résistance, lui, il avait une entorse et il ne pouvait pas se sauver. Ils l'ont donc fusillé sur place. La propriétaire et son employé a été emmenés et la maison où ils habitaient, une maison un peu plus importante, un petit peu à l'écart du village, la maison a été incendiée. Si quelqu'un était suspect là-dedans, c'était toujours les Juifs. Pourquoi ? Le matin du 27 avril, après notre repas de midi, il y a des Allemands qui sont venus. Vous êtes en état, vous devez nous suivre. C'était effectivement, nous devions y suivre. On m'avait fait la lessive le matin, ils m'ont laissé aller seul dans le jardin pour chercher le linge. Je suis allé seul, j'aurais pu partir facilement. Mais en aucun cas, j'aurais pu laisser maman et mon frère seuls. Je ne sais pas ce qu'il serait advenu si je les avais laissés seuls. Sur le même palier vivait une autre famille juive. Le chef de famille avait été prisonnier de guerre et pour des raisons de santé, il avait été libéré. Et un enfant de 18 mois était né dans ce couple qui avait deux autres enfants, c'est-à-dire trois enfants. Nous étions donc en état d'arrestation et nous devions marcher jusqu'à la RN83 où nous attendaient des bus. C'est ainsi que les Juifs ont été arrêtés. Je peux vous dire que nous étions les premiers du Jura à être arrêtés. Et pourquoi? Je peux vous le dire ici, après vraiment des années et des années de recherche, voilà, j'ai appris que les Allemands avaient d'abord, dans ce hameau, arrêté tous les jeunes qu'ils ont trouvés. Les jeunes. Et dans le village d'à côté également, tous les jeunes qui sont plus trouvés. Et c'est les mères, les mamans de ces garçons qui sont allés chez le maire, M-A-I-R-E, pour dire « Mais pourquoi voulez-vous que nos jeunes soient arrêtés alors qu'il y a dans le village d'à côté des Juifs et des Juifs étrangers ?» Il n'y avait parmi nous aucun étranger. Nous étions tous Juifs. Le lendemain, donc le 27 avril, nous avons été arrêtés. Par un hasard, comme il en reste, comme il n'y en a pas deux. Bien sûr, bon, nous étions 23 personnes, que dire. Nous avons passé quelques jours dans cette caserne désaffectée. Nous avons ensuite été acheminés sur Drancy. Les personnes qui ont été arrêtées, la propriétaire et son employé, ont voyagé avec nous. Et les deux personnes sont parties sur Compiègne, tandis que nous avons été reçus à Paris par Brunner et son chien, et nous avons été acheminés à Drancy. Quand nous sommes arrivés, un convoi est parti, un convoi composé uniquement d'hommes, 878 hommes. C'est des hommes qui pensaient partir travailler en Allemagne. On leur avait dit qui travaillerait comme STO, et ils le croyaient. C'était un convoi terrible, ils sont partis en Lituanie, ils ont travaillé dans les forêts, c'était un convoi terrible. À la fin de la guerre, il y en a très peu qui sont revenus, voilà. Et en ce mois de mai 1944, trois convois sont partis. Deux convois à Auschwitz, et le troisième convoi, c'est celui du milieu, hein. De 878 personnes, ce convoi, on n'a jamais su pourquoi ils sont partis en Lettonie et en Lituanie. En ce qui nous concerne, nous sommes partis le 20 mai 1944, c'est-à-dire 60 personnes. À partir de 5 heures du matin, il fallait se tenir prêt. On est descendus les uns après les autres. Les autobus parisiens nous attendaient. Et là, on est arrivé à Bobigny. je peux vous dire qu'à Bobigny, à l'époque, il y avait encore des locomotives à vapeur. C'était effrayant. Quand on arrivait à Bobigny, ce bruit terrible, premièrement, c'était de bonheur, nous ne savions pas où nous allions, nous étions émotionnés, et d'entendre premièrement de voir tous ces rails, je ne sais pas si vous avez déjà vu Bobigny, mais c'est très impressionnant. Et quand nous sommes arrivés sur un quai, et nous étions en face de la gare de Bobigny, et en contrebas de ce quai, il y avait un train qui s'était formé, un train de 20 wagons. Il y avait des ouvriers qui étaient en train de décharger des bottes de paille qu'ils mettaient dans ces wagons. Si vous aviez vu, personne ne parlait plus. Les visages étaient fermés. Si vous aviez vu cette prise de conscience, c'était terrible. On venait de se rendre compte que nous allions prendre des wagons à bestiaux pour aller, comme on disait dans le temps, à Pitchipot, c'est-à-dire un lieu qu'on ne connaissait pas, un lieu, on ne savait rien de tout ça.
C'était le témoignage de Simone Polak, 93 ans, rescapée de la Shoah. Elle a témoigné devant les jeunes de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, section Strasbourg.